Et nous avons même un nouvel ami à Page des Libraires, puisque c'est la première fois que vous venez nous voir, Guillaume Le Douarin, bonjour.
Oui, bonjour, merci de m'inviter.
Vous avez trois lectures à nous conseiller, dont il est question dans le magazine Page des Libraires. Et le premier, c'est un essai de Stefano Massini, Les Frères Lehmann. C'est paru aux éditions Globe, c'est même le prix Médicis Essai, je crois.
Voilà, c'est le prix Médicis Essai. Alors, bon, c'est pas tout à fait un essai pour moi. Moi, je trouve que c'est un roman que j'ai eu dans les mains avant même qu'il ait le prix, forcément.
Bah, d'ailleurs, la fiction de France Culture l'a adapté.
Voilà, l'a adapté, j'ai entendu
ça. Dernier, ouais. C'est toujours écoutable sur le site, d'ailleurs, de la chaîne.
Alors, moi, il y avait trois raisons pour lesquelles j'avais pas envie de le lire. Déjà, il faisait 840 pages. C'était un livre sur...
Le Seigneur des Anneaux, ça en fait encore bien plus.
Voilà. Enfin, les libraires, ils doivent lire un peu vite, quand même. Hein. Donc là, j'étais parti sur des jours de lecture. En plus, c'était sur les frères Lehmann. Bon, on a un petit peu soupé des frères Lehmann. C'était... Et puis, quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu que c'était des vers libres. Alors, je me suis dit, là, c'était très compliqué. Sauf que c'est édité chez Globe. Globe, c'est un éditeur, pour moi, de littérature étrangère vraiment extraordinaire. Et j'en avais entendu parler par ailleurs. Donc, ça m'a vraiment convaincu de me plonger dedans. Je me souviens, c'est un dimanche après-midi, sur mon lit, je me suis plongé pour parler trivialement. Je me suis fait avoir. Je suis parti dans ce bouquin. J'ai été complètement embarqué. C'est un livre tout à fait fascinant sur plusieurs plans. Le premier, c'est que déjà, c'est une histoire familiale, les Lehmann. Donc, il y a le patriarche qui est en Bavière, qui, au XIXe siècle, envoie un fils, un premier fils, Henry, qui va être baptisé Henry quand il arrive aux États-Unis. Et il lui dit, tu pars aux États-Unis et puis tu reviendras. Tu sais pas faire grand-chose de ta vie. Tu reviendras quand tu auras fait fortune. Ce fameux Henry débarque aux États-Unis. Rapidement, il fait venir ses deux frères. Et à partir de là, vous partez dans 150 ans d'histoire des États-Unis. Vous suivez ces Lehmann, cette famille Lehmann. Alors évidemment, le plan famille est intéressant parce que vous avez à la fois cette histoire familiale avec ses morts, ses mariages. Et un des frères, notamment, qui courtise une femme pendant 700 jours avant de lui déclarer sa flamme et de se marier. Donc, vous partez vraiment dans cette histoire familiale. C'est absolument étonnant et épatant.
Donc, il est plus question des États-Unis et de cette famille que de la banque, alors.
Alors, effectivement, il est question des deux. Mais cette histoire des États-Unis, elle est évoquée vraiment de biais. Donc, c'est vraiment ça qui est très intéressant. C'est qu'au départ, il se lance dans le coton. Donc, il part de New York, mais il se lance dans le coton en Alabama. La guerre de sécession arrive. Il y a un frère qui décide de soutenir les sudistes, l'autre les nordistes. Le coton, rien ne va plus. Ils se lancent dans autre chose. Ils sont toujours friands et avares de progresser, d'être les premiers. Bon, je ne vais pas tout raconter parce que moi, c'est vraiment un livre. Je me suis plongé dedans. Ça m'a passionné. Ouais. On parle de tout, du téléphone, du chemin de fer, du charbon, du coton, de l'acier. Vraiment, vous avez un portrait des adultes. C'est fabuleux.
Il faut le lire absolument. Vous en parlez avec passion. Deuxième de vos choix, Guillaume, c'est un livre d'entretien qui s'appelle « De la musique » entre l'écrivain japonais Murakami et puis le célèbre chef d'orchestre Seiji Ozawa, aux éditions Belfond.
Alors là, il est question aussi de rythme, mais bon, comme c'est de la musique, c'est normal. Alors moi, en musique, je suis complètement nul, j'y connais rien. Et moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que j'ai appris énormément de choses. Alors le principe, c'est que Murakami et Seiji Ozawa se connaissaient vraiment très lointainement par la fille de Ozawa. Il se rend compte parce qu'Ozawa, à un moment, est gravement malade, donc il fait une petite pause dans sa carrière très prenante de chef d'orchestre. Et tous les deux conversent de musique. Alors, ce qui est vraiment épatant, c'est que à chaque fois, Murakami, qui est quand même très modeste, dit « Moi, je ne connais pas trop la musique, j'y connais. Ouais, » C'est quand même un très, très grand connaisseur de la musique classique. Il est vraiment impressionnant. Mmh. Et à chaque fois, ils mettent sur la platine un disque. Les deux écoutent et après ils font une sorte de petit débriefing de ce qu'ils ont écouté en parlant des tonalités, de la couleur, de l'interprète. C'est passionnant.
Il faut l'écouter aussi avec un disque.
Alors voilà, exactement. Justement, j'allais en venir là, c'est qu'une fois qu'on a écouté ces entretiens, on n'a qu'une envie, c'est de courir, soit emprunter le disque, soit de l'acheter. Et à chaque fois, c'est souvent les mêmes morceaux, mais interprétés soit par des nouveaux musiciens ou dirigés par un nouveau chef d'orchestre. Alors ça, c'est vraiment épatant. Et alors, bon, juste à dire que c'est parfois peut-être un petit peu technique, mais ça regorge aussi d'anecdotes, et je vais juste en narrer une très brièvement. Il y a un fameux concert en 62, où c'est un concerto de Brahms qui est joué, et Leonard Bernstein parle au public avant de commencer à interpréter l'œuvre, et il dit écoutez, moi je cautionne pas du tout ce qu'on va jouer, ça me plaît pas du tout, mais c'est Glenn Gould qui a décidé de jouer comme ça, donc je vais suivre Glenn Gould. Voilà, et il y a plein d'anecdotes comme ça, et eux aussi sur Ozawa, sa conception de la musique, comment un jeune japonais est venu à diriger des orchestres comme ça européens. Il se fait une fois en Italie siffler 6 fois de suite. Alors qu'il y a sa mère dans le public, ils t'ont encouragé, c'était super.
C'est sa mère qui le
bravo.
Fait,
en fait. Et en fait, pas du tout, il détestait ce que je faisais. Enfin, en tout cas, c'est un homme brillant, travailleur, qui va voilà, devenir un grand chef d'orchestre.
Et
c'est passionnant.
Pour terminer, pourquoi je déteste Noël? Bah oui, c'est un bon livre à mettre sous le sapin, ça. De quoi s'agit-il? C'est un livre de Robert Benchley chez Poinceuil.
Alors ça, je me suis dit que c'était une bonne idée pour, justement, pour Noël, pour mettre au pied du sapin. Ça ferait plaisir à tout le monde. Et en fait, Benchley, c'était une sorte de satiriste, un journaliste qui a beaucoup participé à Vanity Fair et au New Yorker. Et en fait, ce qu'il veut faire, Benchley, lui, c'est toujours rompre avec l'ordre établi. Donc là, c'est une petite compilation de petits sketchs, de petits pinus, comme ça, des petits pastiches autour de Noël. Et c'est à la fois drôle, et puis en même temps, il y a un petit côté comme ça, un peu anarchisant, où il remet en cause l'ordre établi, juste pour parler d'une petite nouvelle qui est au milieu, qui est tout à fait, qui est vraiment étonnante. Très rapidement, c'est un petit garçon qui joue avec un nono et une montre à gousset. Il essaie de les faire passer dedans. C'est le jour de Noël. Son père vient le voir, lui dit « Oh, ben attends, il y a le Père Noël qui est passé. Viens voir, il y a des cadeaux pour toi. » Alors, le petit garçon est passionné par ses jeux de trois fois rien. Il n'a pas du tout envie de laisser son jeu. Il vient quand même voir les cadeaux que le Père Noël a apportés et ça lui plaît pas du tout. Alors, au final, c'est le père qui joue avec le jeu mécanique que le Père Noël a amené. Puis le petit gamin, il continue à jouer avec son anneau. Voilà, c'est l'esprit de Benchley.
Comme ça que ça se passe.
Voilà, souvent, c'est comme ça que ça se passe.
Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, on vous retrouve bientôt et d'ici là, dans les colonnes évidemment du magazine Page des libraires.